Vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est là dans l'Ancien Testament, l'idée que ceux qui ont été rachetés par Dieu sont ses saints, S-A-I-N-T-S. Mais dans le Nouveau Testament, c'est constant. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont appelés les saints de Dieu, S-A-I-N-T-S, ceux qui sont sanctifiés. Je ne sais pas combien d'entre vous, en vous levant ce matin, vous êtes allés comme remettre tous les morceaux en place devant la glace puis essayer de faire quelque chose avec la face qui était là. Puis là, une fois que c'est terminé, vous êtes regardé dans le miroir et vous avez dit, « Man, t'es un saint, toi. » Non? Ou encore, si ce matin, Denis et Hélène, qui étaient à la porte, qui saluaient, vous auraient salué en disant, « Salut Saint-André, Sainte Charity. » Sainte Madame Paradis, Saint Jonathan. Comment vous auriez filé ce matin? Est-ce que ça aurait été cool? Si dans votre cœur, la réponse qui vient, c'est non, vous êtes grandement, grandement dans l'erreur. Si dans votre cœur, vous êtes mal à l'aise avec ça, vous êtes grandement dans l'erreur. Et probablement qu'avec cette simple illustration-là, on peut expliquer plein de difficultés dans votre vie chrétienne. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit sur celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Alors, c'est ma première question pour toi ce matin, pour chacun d'entre nous. Es-tu un saint? Es-tu un saint? On va voir ensemble ce matin que celui qui place sa foi en Jésus-Christ est appelé saint par Dieu, pas par les hommes. Est appelé saint par Dieu et grandit de plus en plus en sainteté. Es-tu un saint? 1 Corinthiens 6, 11. « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Voyez-vous, on a commencé la série, c'était volontaire, j'ai voulu commencer la série avec Dieu. L'homme ne peut se connaître lui-même véritablement, non pas en commençant par lui-même, mais en commençant uniquement par Dieu. Parce que c'est de lui qu'on origine, c'est de lui qu'on vient. Et donc, on a commencé cette série en définissant la sainteté de Dieu. Et d'aucune manière, j'aurais voulu réduire ça pour que vous soyez confortable avec la sainteté de Dieu, simplement comme ça. Non, même les saints de Dieu doivent à quelque part dans leur cœur, malgré toute l'assurance qu'ils trouvent dans leur salut, trembler à l'intérieur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont dans la présence du Très-Saint, parce que c'est Dieu. Et donc, je comprends qu'après avoir défini la sainteté de Dieu, la majesté, la gloire de Dieu comme ça, on arrive avec ce qualificatif-là pour se définir, ce mot-là pour dire « Saint Yannick ». On est mal à l'aise. On est mal à l'aise. Mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit ici. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Si tu côtoies des chrétiens depuis un bout de temps, puis tu dis à vous autres, on le sait bien, hein, vous êtes parfaits, vous autres, vous êtes saints. Il faut que tu entendes ce passage-là, c'est super important. Parce que Paul est en train de dire ici, oui, les chrétiens ont été sanctifiés. Oui, les chrétiens sont saints. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais vous avez été lavés. Nulle part dans les Écritures, il y a cette idée que c'est possible pour l'être humain de se laver lui-même premièrement, de se sanctifier lui-même premièrement, de se justifier lui-même premièrement. Et donc, lorsque Paul est en train de dire, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été lavé, vous avez été justifié, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que cela vous a été donné. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ place sa foi dans le sacrifice de Christ sur la croix. Et c'est un pur acte de foi. C'est par un acte de foi dans le sacrifice de Jésus-Christ que j'accepte par la foi que Dieu me lave. Que Dieu me lave de mes péchés. Et par le fait même, il me sanctifie. Il me rend saint. Il me déclare saint. Ah, c'est vrai, quand je me regarde dans le miroir en me levant ce matin, mais je ne vois pas quelqu'un qui est parfait. Je ne vois pas quelqu'un qui est sans péché. Mais j'apprends par la grâce de Dieu à me rappeler cette vérité-là super importante. Je ne suis pas parfait, mais je suis un saint. Parce que cette sainteté, cette justice me vient de Dieu. En d'autres termes, la sainteté de Jésus-Christ m'a été imputée. Elle m'a été créditée. Et c'est sur le crédit de Christ que je suis saint. Parce que lui est saint. Parce que lui est parfait. Et donc, c'est un acte de foi. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ a été lavé par le sacrifice de Jésus-Christ. Il ne s'est pas lavé lui-même. Et si tu avances dans la vie chrétienne en oubliant cette vérité fondamentale-là, la vie chrétienne va être tellement pénible, tu ne pourras pas lire la Bible. Tu ne peux pas lire la Bible puis essayer de faire tout ça par toi-même puis te dire que ça repose sur tes épaules. Chaque matin, avant d'ouvrir les Écritures, j'ai besoin de me rappeler que j'ai été sanctifié, j'ai été lavé, j'ai été justifié en Jésus-Christ. Et puis là, je peux faire le pas de foi. De dire, OK, Seigneur, continue la transformation. Parce que je m'approche de toi par la foi. Je m'approche de toi par la foi dans ce que tu as fait. Et dans le fond, la question, c'est surtout de savoir si tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Alors peut-être que Dieu t'attire, Dieu parle à ton cœur depuis un bout de temps, tu côtoies des chrétiens, c'est une énigme, tout ça, c'est un mystère. Est-ce que tu as fait ce pas-là de décider de placer ta foi en Jésus-Christ? Pour que la sainteté, la justice de Christ, à cause de son sacrifice, en vertu de son sacrifice, te soit imputée, te soit créditée. Une fois que c'est fait, Dieu te déclare saint. Des fois, on dirait que ça devient plus difficile avec les années de vie chrétienne. Hein? Plus on s'approche de Dieu, je l'ai souvent entendu dire par des hommes, des femmes d'expérience dans la foi, plus on s'approche de Dieu, plus on découvre la sainteté de Dieu. Puis à quelque part, plus on découvre qu'il reste encore tellement de chemin à faire. Dans les dernières années, j'ai plusieurs chrétiens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Yannick, je suis découragé de voir qu'il reste tellement de chemin à faire encore. Oui, mais tu connais Dieu comme tu ne l'as jamais connu avant. Hein? C'est sûr, plus tu t'approches de l'Everest, plus tu le trouves grand. Plus tu le trouves grand, plus tu le trouves majestueux. C'est quand même de Dieu qu'on s'est approché. Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ? Si c'est le cas, Dieu te déclare saint. Maintenant, je reviens dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. On a commencé à parler de ça la semaine dernière. Lorsque Dieu sanctifie, lorsque Dieu se crée un peuple, il les met à part. De la même manière que Dieu est incomparable, qu'il est à part, qu'il est autre, lorsqu'il vient, rachète des hommes, des femmes, se crée un peuple, il les amène à être à part. Alors Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? À tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, pas par vous-même, en Jésus-Christ, appelés à être saints. À partir du moment où la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu entre dans ton cœur, vient toucher ton cœur, Il y a un nouvel appel sur ta vie. Il y a un nouvel appel sur ta vie. Tu es mis à part, tu es consacré, tu es appelé à être saint et saint. Tu as été sanctifié, tu as été purifié, tu as été lavé. Et pourtant, tu te regardes le matin quand tu regardes dans le miroir et tu dis, j'ai encore pécheur, Seigneur, j'ai encore commis des péchés cette semaine, j'ai encore parlé trop vite, j'ai encore blessé des gens, j'ai manqué de t'honorer, j'ai manqué de te glorifier ici et là cette semaine, Seigneur. Et pourtant, il y a cet appel sur ta vie. Tu es appelé à être saint. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes mal à l'aise avec l'idée que vous êtes des saints, probablement que ça explique un paquet de difficultés dans votre marche chrétienne. Parce que j'ai besoin à la fois de me rappeler que ce n'est pas par moi-même que je peux y arriver. J'ai été sanctifié en Jésus-Christ, mais j'ai été sanctifié. J'ai donc un appel maintenant sur ma vie. Et je pense que ce serait juste de dire qu'il n'y a personne de plus triste sur la terre que quelqu'un qui a été sanctifié et qui ne répond pas à son appel. Parce que tu sais, mais tu ne vis pas. Parce que tu as connu, mais tu ne poursuis pas. Tu sais. Vous savez, des fois, on parle avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis on explique l'Évangile, tout ça, puis on s'en va dans les Écritures, puis ouais, c'est intéressant, c'est beau, mais il n'y a rien qui vibre en eux. Ils vont même des fois aller jusqu'à dire, c'est super beau ton histoire. OK, on va-tu au cinéma? Ça ne fait rien vibrer en eux. Parce qu'ils ne savent pas. Dieu n'a pas éclairé les yeux de leur cœur pour qu'ils soient saisis par cette grâce-là. Puis t'auras beau essayer autant comme autant de leur rentrer dans le coco, ça ne rentre pas. Ça prend une intervention divine pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Mais celui qui a été sanctifié, chacun d'entre vous, si vous avez saisi l'Évangile, vous avez été sanctifié. Un appel vient avec ça. Et il n'y a personne de plus malheureux sur la terre que celui qui a été sanctifié et qui ne poursuit pas son appel, parce qu'il a connu. Parce qu'il a connu l'amour ultime, la grâce superbe de Dieu. Alors voyez-vous, j'ai été sanctifié, déclaré pur, déclaré juste, et je suis appelé à être saint maintenant. Je suis sanctifié, je suis mis à part, consacré au service de Dieu. Et cet appel-là doit résonner dans mon cœur quotidiennement. Chaque matin, je dois me lever, d'une manière ou d'une autre, en lisant les Écritures, mais la trame de fond, c'est « Seigneur, comment est-ce que je peux marcher aujourd'hui, vivre comme ce peuple qui est à part, qui est consacré? » Encore une fois, pas parce que je suis meilleur par moi-même, mais parce que tu m'as touché de ta grâce. Comment est-ce qu'au travail, je peux être différent et vraiment marcher comme ce peuple consacré qui est différent? J'ai un appel maintenant à marcher dans cette sainteté-là. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais ici? Toi, le Saint, qu'est-ce que tu ferais ici, Seigneur? Dans mon couple, dans mes réactions, dans mes attitudes, dans ma manière de gérer mon temps, mes loisirs, dans ma manière de parler avec les gens, de côtoyer le désespoir, la souffrance dans le monde. J'ai un appel. Mon appel, c'est à être saint, à être comme Dieu. Et je dois poursuivre cet appel-là activement. La semaine prochaine, on termine la série. Le sujet complet dimanche prochain, c'est OK, comment vivre comme des saints, S-I-N-T, dans un monde malsain? Parce que c'est beau la terre. Il y a un million de choses qui sont géniales. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde est en train de poursuivre la sainteté à cette époque où, finalement, ce que tu veux, c'est ce qui est bon. Comment on fait ça pratiquement, concrètement? Mais la première chose que vous devez réaliser, c'est qu'il y a un appel sur votre vie. Et si votre vie chrétienne est misérable, c'est probablement parce que vous n'êtes pas en train de poursuivre cette sainteté-là. Vous ne répondez pas à l'appel. Et je vous exhorte de tout mon cœur, de tout mon cœur, à vous repentir. à tomber à genoux et dire, Seigneur, j'ai abandonné mon appel. Dans le langage de Jésus, dans l'Apocalypse, j'ai abandonné mon premier amour, Seigneur. J'ai abandonné l'amour de ma jeunesse dans ma foi. Et si dans votre cœur, vous ne trouvez pas le chemin pour retourner à la maison, je l'ai souvent dit, je l'ai vécu personnellement, il y a des moments où tu dis, Seigneur, j'entends même plus l'appel. J'entends même plus ta voix. J'ai attristé ton esprit à un point tel où il n'y a plus rien qui résonne en moi. Je suis là, je suis écrasé, je suis dans mon petit coin, détruit par cette froideur, cette tiédeur qu'il y a dans mon cœur, mais j'entends plus ta voix, Seigneur. La parole de Dieu dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Dieu n'éteint pas la plus petite flamme et il vient et il la ranime. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu t'humilies devant lui. Que tu viennes dans la prière, que tu prennes un temps à l'écart. Essaie pas de faire ça en 5 minutes le matin avant de partir pour le travail. Des années de tiédeur, des mois de tiédeur, puis Seigneur, donne-moi une shot, s'il te plaît, j'ai besoin d'aller. Wouh! OK, je suis chrétien, c'est cool. Ça se réglera pas comme ça. Ça se peut que tu aies besoin de partir dans le bois pendant une journée complète, de prendre un temps à l'écart. Ça se peut que tu aies besoin de prendre un temps pour jeûner de ton iPhone, tirer ça au bout de tes bras, les ordinateurs, tout le kit, puis juste être connecté avec Dieu. Lâche le web, lâche tes activités, prends un temps à l'écart et crie à Dieu. Dis, Seigneur, cette vie-là n'est pas présente dans mon âme, viens la ranimer en moi. C'est le plus beau sacrifice qu'un être humain peut offrir à Dieu. Celui d'un cœur repentant qui dit « À l'aide, Seigneur. » Il n'y a rien sur cette terre, absolument rien sur cette terre, aucune chose extraordinaire que tu vas pouvoir faire pour Dieu, conduire 1000 âmes au Seigneur, donner tes biens, aider les pauvres, n'importe quoi. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire sur la terre qui va autant toucher Dieu et plaire à Dieu que si tu l'appelles à l'aide. Parce que Dieu connaît notre faiblesse. Et Dieu aime un cœur brisé devant lui. Alors, si tu vas dans la vie chrétienne en disant, « Yannick, je le sais, j'ai compris l'Évangile. OK, je suis un saint, mais je ne poursuis pas mon appel. » Appelle à l'aide. Appelle à l'aide. Va voir des frères, des sœurs. Demande-leur de prier pour toi. Et poursuis Dieu. Poursuis Dieu jusqu'à ce qu'il saisisse ton cœur. Il est tellement bon. Il va le faire. Es-tu saint? As-tu placé ta foi en Jésus-Christ pour être déclaré saint? Et est-ce que tu poursuis ton appel à cette sainteté? Et cet appel à cette sainteté, ça veut dire que Dieu va t'amener à être de plus en plus saint. Es-tu saint? Es-tu de plus en plus saint? En théologie, on appelle ça lorsqu'on étudie tout le salut dans le Nouveau Testament, il y a plein de facettes au salut. Il y a toutes sortes de facettes. On pourrait faire une série juste sur les différentes facettes du salut. L'élection, la justification, la régénération, la rédemption et la sanctification. Au moment où je crois, Dieu me déclare saint, Dieu me justifie, il me crédite la justice de Jésus-Christ. Et à ce moment-là commence un long processus de transformation où Christ va être formé en moi. On appelle ça souvent la sanctification. Wayne Grudem, un excellent théologien, résume ça comme ceci. La sanctification est l'œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres du péché et nous transforme à l'image de Christ dans notre vie de tous les jours. Je vous le relis. La sanctification est l'œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres du péché et nous transforme à l'image de Christ dans notre vie de tous les jours. Voyez-vous, les Écritures nous disent que cette œuvre-là, c'est une collaboration entre Dieu et toi. Entre l'Esprit de Dieu et toi. Et c'est une œuvre progressive. Ça va prendre du temps. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, voici ce que l'apôtre Paul encore a écrit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est l'œuvre de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors non seulement je suis sauvé par la foi, non seulement je suis déclaré saint par la foi, mais je suis transformé de sainteté en sainteté, de gloire en gloire, transformé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, par la foi aussi. Et c'est pour ça que lorsqu'on jase avec des chrétiens, puis ils disent, Yannick, j'y crois pas, Dieu, je sais pas, d'après moi, je suis un cas trop lourd. Inévitablement, dans la conversion, dans la conversation, à un certain moment donné, il va falloir adresser la question, oui, mais tu ne crois plus en Dieu. Non, tu comprends pas, c'est pas Dieu le problème, c'est moi. « Ah, mais c'est toi le problème depuis le début, man. La seule solution, c'est Dieu. » Fait que ça, on le sait déjà. Qu'est-ce qui a fait que tu as cru pour ton salut? Tu savais que c'était toi le problème. Mais tu as cru que Dieu était la solution. Pour ta sanctification aussi, ta transformation, pour la formation de Christ en toi, Dieu est encore la solution. Et donc, c'est un acte de foi. Et chaque fois que je me regarde dans le miroir puis que je dis, j'ai besoin de tourner les regards vers Dieu. J'ai besoin de tourner les regards vers Dieu. Parce que mon espoir est là et pas en moi. Et ça, c'est la part de Dieu. Mais ça se fait avec ta collaboration. Cette œuvre-là demande ta réponse quotidienne. De la même manière qu'au jour de ta conversion, au jour où tu as placé ta foi en Jésus-Christ, il a toujours bien fallu que tu dises « Oui, je le veux ». Et chaque jour, ta transformation demande encore. Comme chaque matin lorsque je quitte la maison puis je dis à Esther « Je t'aime ». Je suis en train de dire « Je le veux encore, chérie ». Puis le soir, lorsqu'on se couche, puis nous autres, c'est un petit... Elle répond. Ah, là, vous êtes vraiment dans ma chambre à coucher, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Surtout s'il y a un accrochage. Oui, je le veux. Chaque jour de ta vie chrétienne, il faut que tu donnes ça à Dieu. Non, vous pourrez le pratiquer, Annie puis Bruno, ce soir. Tu dois donner cette réponse-là à Dieu dans ton cœur. Deux autres passages rapidement. Romains 8, 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a cette espèce de paradoxe-là dans la vie chrétienne où mon vieil homme a été crucifié avec Christ, je suis mort et vivant en Jésus-Christ, puis en même temps, Paul me dit, « Oui, mais il continue à t'appeler tous les jours. » Et donc, tous les jours, je dois décider de renoncer à la vie de ce vieil homme-là qui vivait sans Jésus-Christ. Et donc, quotidiennement, je dois écouter l'appel de l'Esprit de Dieu qui est en moi maintenant pour répondre à son appel quotidiennement. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais aller dans les Écritures, je vais aller dans la parole de Dieu, je vais laisser la parole de Dieu venir faire du ménage, renouveler mon intelligence, je vais préparer mon cœur dans la prière. On va parler un petit peu plus de ça la semaine prochaine. Mais il doit y avoir cette décision quotidienne, de revenir à cet amour et de décider, je ne vais pas écouter ce vieil homme en moi qui m'appelle à marcher comme je vivais autrefois, selon, comme dit Paul, la vanité de mes pensées, et au contraire, selon la pensée de Dieu. 1 Pierre 1, 13 à 21, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, de votre pensée. Soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il y a deux hérésies, ça vous dit quelque chose? Le terme hérésie, ça veut dire des fausses doctrines, des mensonges. Deux hérésies, deux fausses pensées sur le processus de sanctification qui sont sorties depuis le début de l'histoire d'Église, il y a 2000 ans. Il y a deux fausses pensées sur la sanctification qui sont venues. Et peut-être que vous êtes coupable de marcher selon une de ces deux pensées-là. J'ai un peu de théologie avec vous ce matin, d'accord? Le premier gros terme, antinominianisme, d'accord? Antinominianisme, pas besoin de le retenir. Seule chose à retenir, c'est la chose suivante. Ces gens-là enseignaient, puisque Jésus a tout accompli, je n'ai rien à faire. Puisque Christ est mort, je n'ai pas à poursuivre la sainteté. Ma vie n'a pas besoin d'être transformée. Sa sainteté m'a été créditée que ma vie se change vraiment ou non de plus en plus à l'image de Christ. On appelle ça l'antinominianisme, qui prêche une espèce de liberté excessive, qui dit la justice de Christ a été imputée, que ta vie soit misérable ou non, qu'on voit des fruits ou non dans ta vie. De toute façon, c'est par la foi, c'est par la grâce, ça finit là. Et l'autre fausse compréhension de la sanctification, c'est le perfectionnisme. C'est pas le perfectionnisme tel qu'on l'entend, d'accord? Ma femme est perfectionniste, elle est pas coupable de ça, d'accord? C'est pas de ça qu'on parle. Mais il est apparu à travers les anges cette idée qu'il était possible pour le chrétien d'être tellement transformé par l'Esprit Saint qu'à partir d'un certain moment dans sa vie chrétienne, il ne péchait plus. D'aucune manière. John Wesley particulièrement, Charles Finney, ce sont des gens qui ont parlé de cette xème consécration et une partie de la théologie du baptême de l'esprit qu'on trouve dans certains milieux où il va y avoir plusieurs même baptêmes de l'esprit vient de là parce qu'éventuellement après ton deuxième, troisième, quatrième, pouf, à un moment donné c'était fini. Tu ne péchais plus, tu étais rendu saint. Et ça aussi c'est faux. L'apôtre Jean nous dit, nous péchons tous, c'est quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. D'accord? Alors nous demeurons pécheurs jusqu'à la fin. Maintenant, certains d'entre vous, vous en êtes venus à être tellement découragés dans cette poursuite de la sainteté que vous avez baissé les bras à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Seigneur, je vais rentrer sur la peau des fesses, mais... Il n'y a rien à faire avec moi. Il n'y a rien à faire avec moi. Dieu vous appelle à répondre à cet appel de la sainteté. Parce que l'objectif, le but de ça, c'est que Christ soit formé en nous. Et ça m'amène au dernier élément que je veux souligner ce matin. Dieu nous a rachetés pour être un peuple pour sa gloire dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Dieu était dans toute sa gloire, sa majesté, et il est venu parmi les hommes. Dieu est venu se faire connaître aux hommes. Il s'est racheté un peuple et il ne l'appelle pas à vivre dans un monastère où tous les saints ensemble sont là et chantent « Kumbaya Seigneur » jusqu'au retour de Jésus. Il nous appelle à être un peuple saint au milieu du monde, une lumière dans le monde, un sel, une saveur parmi les hommes. Dieu veut former en nous toute la beauté, la joie, la paix qu'il y a en Jésus-Christ. Quand on lit les évangiles, les quatre évangiles, puis on découvre la personne de Jésus, c'est les premières fois, c'est tellement impressionnant, il est tellement beau, patient, c'est incroyable de voir Christ comme ça. C'est ce que Dieu veut former en vous, C'est ce que Dieu veut former en moi. Parce qu'il veut que pour mon épouse, pour l'Église, pour sa gloire, pour moi-même, pour mes enfants, pour mes collègues de travail, pour mes voisins, la beauté de Christ devienne tangible et visible devant eux. Et lorsque je renonce à cet appel qui est de poursuivre cette sainteté dans ma vie, je renonce à manifester la beauté de Christ. Et tranquillement, je deviens comme le reste des hommes. Comme le reste des hommes. Vous savez comment ça fonctionne un rosier qui a un greffon? Vous savez ce que c'est? Souvent, les rosiers sont plantés sur une autre plante. Et parce que le rosier ne sera pas autonome de lui-même, puis on vient le greffer sur cette plante. Il y a quelques années, j'ai planté un rosier dans ma cour. Il était super beau. Je ne connaissais tellement pas les rosiers. Je n'avais pas catché qu'il y avait deux plantes dans une plante. Fait qu'à un certain moment donné, il y en avait une qui poussait quatre fois plus vite que l'autre. Puis ça se ressemblait au début, je trouvais ça cool. T'sais. Fait que je le laissais aller, le tableau. Il était tout petit quand ils me l'ont vendu. Il était rendu ça de gros. Wow! Mais assez rapidement, j'ai découvert que les fleurs étaient vraiment bien ordinaires. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en commençant à tailler les branches, j'avais abandonné le greffon. Le greffon était mort parce que la plante était là et avait repris le dessus. Et c'est ça qui se passe avec nous. Lorsqu'on laisse le vieil homme venir prendre toute la place et qu'on abandonne notre appel, à un certain moment donné, tu ne vois plus la différence avec ta vie d'avant. C'est difficile et ça prend du temps. Ça demande de la patience. On va passer un temps de louange dans quelques instants. J'aimerais ça terminer avec une illustration. Il y a un homme que je respecte énormément qui s'appelle Jacques Alexanian. Certains d'entre vous le connaissez. Encore avec nous, encore en train de servir le Seigneur, encore en train de s'occuper d'une église, c'est incroyable. Monsieur Alexanian est vraiment spécial, un missionnaire qui est venu servir. Puis ça a été un de mes premiers professeurs lorsque j'ai étudié en théologie au séminaire. Puis M. Alexanian nous disait, « Les gars, est-ce que tu veux être une citrouille ou est-ce que tu veux être un chêne? » Ceux qui connaissent M. Alexanian, c'est vraiment comme ça qu'il parle. Est-ce que tu veux être une citrouille? Ça prend quelques mois. C'est incroyable comment ça pousse vite, c'est beau. Mais moi, je ne veux pas être une citrouille. Je veux être un chêne. Puis un chêne, ça demande du travail. Ça demande de la patience. Dans mon couple, dans mon foyer, dans ma maison, je veux pas être une citrouille pour ma femme. Je veux être un chêne. Je veux qu'elle ait envie de venir à l'abri de ma foi, de ma persévérance, de ma sainteté. Je veux que mon épouse soit un chêne pour ma famille, pour mes enfants, pour le voisinage. Et ça demande la patience, les amis. Ce matin, je t'encourage. Si dans ton cœur, tu as abandonné ton appel, tu as arrêté de poursuivre de toutes tes forces, de tout ton cœur, cette sainteté, crie à Dieu. Sois patient. Dieu va le faire. Il va faire de toi un reflet de la personne de Jésus-Christ dans toute sa beauté. Un chêne majestueux pour les gens qui t'entourent à la gloire de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin parce que tu es saint. Tu es le saint. Les apôtres sont tombés à tes pieds lorsqu'ils t'ont vu dans ta gloire, dans ta majesté. Ils t'ont appelé le saint de Dieu. Et Seigneur, d'aucune manière nous voudrions prétendre être saint comme tu es saint. Être juste comme tu es juste dans ta nature propre, Seigneur. Puis en même temps, par pure grâce, par pure bonté de ta part, Seigneur, tu nous as donné ta sainteté. À celui qui a placé la foi en toi, tu as accordé de devenir saint. Tu m'as donné ta justice et ta sainteté, Seigneur. Et je l'accepte par la foi. Seigneur, par la foi, j'accepte cet appel qui vient avec. Cet appel à laisser l'Esprit de Dieu former Christ en moi. Cet appel à me lever chaque matin en disant, « Oui, je suis imparfait, j'ai péché dernièrement encore, mais je suis appelé à la sainteté, Seigneur. Montre-moi comment agir dans cette situation au travail, montre-moi comment aimer mon époux aujourd'hui, montre-moi comment servir ma famille aujourd'hui, montre-moi comment faire face aux tentations, comment vivre dans ce monde, comment gérer mes sous, comment gérer ma vie, comment me donner aujourd'hui pour être ce peuple saint, ce chêne solide au milieu d'un monde qui a tant besoin de repères, Seigneur. Forme Christ en nous, Père. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen.